pas mettre énormément d'énergie pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant pour une personne. Tu peux pas le faire. Et parce que si jamais tu cherches pour elle et qu'elle achète, tant mieux. Mais si elle achète pas, tu as perdu ton temps. C'est donc clair. Si tu prospectes pour un, tu dois prospecter pour deux. Alors, plusieurs fois où les gens ne veulent pas faire la prospection téléphonique, alors ils passent 6 heures, 7 heures sur le terrain. Ça, c'est la performance. Chercher à être performant sur un truc, mais le résultat, il est où? Non, je vais faire 6 heures. Tu as l'impression que tu bosses, mais tu ne bosses pas. Performant, ce n'est pas efficace. Donc, il faut être efficace et tu peux réduire la performance. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de travailler 6 heures pour avoir un résultat. Quand les gens ils passent leur vie à faire du terrain parce qu'ils ont peur du téléphone, ils n'ont pas compris que le téléphone, en fait, tic, 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 j'arrive dans la tête du gars direct, alors que le terrain, il faut que je trouve déjà le gars. Allez, next, comment on peut avancer? Problème business, racontez-moi tout. Ouais. Je vais faire, je crois qu'à partir de la semaine prochaine, parce que j'ai beaucoup de choses à faire maintenant, mais à partir de la semaine prochaine, je vais faire une fois par semaine un thème. Comme ça, ça vous évitera de chercher des questions. Mais il faut avoir
hier soir, on avait dit qu'on parlerait d'un truc, c'était en prospection, mais je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté.
Et c'était ton problème à toi, non? C'était sur ce que tu faisais.
C'était pas par rapport aux locaux, au fonds de commerce, non, je crois, je ne sais plus.
Quand ça te revient, ça te revient.
Et moi, c'était pour le mandat de recherche.
Yes. Voilà. Rappelle-moi, c'était hier qu'on a parlé, non?
Ouais. Qu'on en parlait ce matin. Eh ben, j'ai des parents de l'école qui sont venus jusqu'à l'agence me demander de chercher un appart.
Ouais, ah là, d'accord, oui, je me rappelle.
Voilà. Et du coup, franchement, je suis un peu.
Non, je me rappelle. Je t'explique. Perdu. Est-ce que si quelqu'un t'appelle, bonjour, je m'appelle Jean-Claude, je recherche un appartement à 45 mètres carrés, nanana. Est-ce que tu vas considérer cette recherche, oui ou non? Oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire comme action? Pas grand-chose si c'est une seule personne. Ok?
Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit hier.
La majorité du temps, quand tu vas faire des visites à des acheteurs qui recherchent, d'accord, la majorité du temps, quand tu leur fais la visite d'un premier appart, ils vont te dire non. C'est même pas parce qu'il ne leur plaît pas, ça se trouve, ça leur plaît. Mais ils vont te dire non et te dire, il faut que je regarde d'autres trucs. Surtout quand c'est le début de leur recherche et surtout quand ils te font confiance à toi alors qu'ils ne te connaissent pas. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a une petite méthode qu'on appelle la trivisite. D'accord ? On fait 3 visites. Un appartement sympathique, un génial et un vraiment nul. D'accord ? Et comme ça, la première visite, tu vas la cramer quoi qu'il arrive. La deuxième, ils vont kiffer, mais ils vont dire non. La troisième, tu vas leur un truc moche, mais beaucoup plus cher. Et après, ils vont dire non, je préfère le deuxième et tu leur vends le deuxième.
D'accord.
La majorité, quand tu fais une visite à quelqu'un qui débute la recherche avec toi, il va te dire non pour le premier. La majorité, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas craquer dès la première seconde. Mais il va se dire dès la première visite, ah, elle a trouvé un truc bien, mais peut-être qu'elle peut faire mieux. Ou qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas mieux que ça? Donc, ils vont chercher, ils vont hésiter. Donc, quand tu fais une recherche pour une personne, la majorité du temps, ça ne servira à rien, tu vas perdre ton temps. Okay, la majorité du temps. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne peut pas craquer, qu'il n'y a pas l'exception, qu'il va confirmer la règle. Mais sur le principe, tu ne travailles pas pour une personne. Ce que tu dois faire, par contre, c'est trouver plusieurs personnes qui recherchent le même truc. D'accord ? Et c'est à ce moment-là que tu commences à te prendre la tête. Maintenant, pour que ça marche bien, ce que je suis en train de te dire, et cette façon de travailler avec les acheteurs, il faut que tu aies une masse de personnes qui recherchent la même chose, d'accord ? Ou ils ont un truc, des critères qui sont très similaires. Maintenant, la masse, ce n'est pas obligé d'être 1500. Hein ? Ça peut être 12, ça peut être 5, ça peut être 6, mais pas 1. D'accord ? Pas 1. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui recherchent la même chose et que ces personnes-là, tu les connaisses bien. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si tu recherches, par exemple, tu sais qu'il y a 6 personnes qui recherchent un 45 mètres carrés à 320 000 euros dans le deuxième. Tu es avec moi, Sandrine ? Vas-y, ouvre le micro, j'échange avec toi.
Ouais. T'inquiète okay. Parce que j'ai Loulou qui pleure en même temps.
Allez, Loulou. Salut Loulou, allez.
À la crèche. Ouais.
Allez, par la crèche, je suis là, je suis à 100% maintenant, c'est bon. Okay.
Qu'est-ce qui se passe s'il y a 5 personnes qui recherchent, d'accord, et tu as un produit, tu dois les faire visiter, d'accord, et ils aiment l'appartement. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer à partir de là?
Ils font une offre.
Oui, d'accord, mais ça, pour ça, il faut que tu ailles voir le vendeur, n'est-ce pas? Donc, imagine que tu as un acheteur, il te recherche un 45 mètres carrés, et toi, tu vois un bien 45 mètres carrés, mais tu as un acheteur, et tu décides d'aller faire la visite pour lui. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord démarcher le gars, n'est-ce pas?
Ah bah oui, oui.
Tu vas démarcher. Et tu vas dire, bonjour, j'ai un client. Il va te dire, d'accord. Et toi, tu vas vouloir faire quoi? Et il va te dire non pour un mandat. Ok, oui, si, imaginons qu'il te dise oui pour un mandat. Donc, il y a deux situations possibles. Tu dis oui, il te dit non. Mais quand tu démarches pour un, d'accord, c'est difficile de démarcher, on est d'accord?
Stop. Si tu es négociateur immobilier, peu importe le réseau dans lequel tu es, je peux t'aider à développer ton chiffre d'affaires. Il suffit juste de rejoindre notre école et rejoindre l'abonnement intégral. Intéresse-toi, le lien est juste en bas dans la vidéo. A plus.
C'est difficile de prospecter, on est d'accord? C'est difficile d'aller en train de faire signer le document, on est d'accord?
Oui.
C'est difficile. Tu ne peux pas le faire pour une personne, déjà, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre énormément d'énergie pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant pour une personne. Tu ne peux pas le faire. Et parce que si jamais tu cherches pour elle et qu'elle achète, tant mieux. Mais si elle n'achète pas, tu as perdu ton temps. Donc, si tu prospectes pour un, tu dois prospecter pour deux. Rappelle-toi le slogan d'hier, il y a big. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Moi, c'est ça qui me... ça me rappelle tout. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Donc, quand tu démarches pour un, il faut que tu démarches pour plusieurs. Donc, l'objectif, c'est quand tu démarches pour Jean-Claude, ton but, c'est d'aller prendre mandat pour faire une diffusion, pour aller diffuser au cas où Jean-Claude, ça ne lui plaît pas.
D'accord.
Parce que toi, en tant qu'entrepreneuse, et nous tous en même temps, et tous les entrepreneurs de la planète, on a tous deux gros problèmes, tous deux gros problèmes majeurs. Premier problème, c'est quoi à ton avis? Ben, c'est de trouver des clients. Deuxième problème, c'est qu'une fois que tu as trouvé les clients, il faut maintenant produire. Et donc, plus tu trouves des clients, plus tu dois produire. Mais plus tu produis, moins tu as de temps. Et moins tu as de temps, moins tu trouves des clients. Et si moins tu trouves moins de clients, ou tu en trouves plus, ben, tu auras moins de temps pour produire. Et donc, notre vie à nous, c'est de gérer le temps, tout le temps. C'est une bonne phrase. J'aurai le temps tout le temps. Donc, la gestion du temps, c'est vraiment notre préoccupation numéro un en tant qu'entrepreneur. Pourquoi il y a des gens comme Jeff Bezos, par exemple, qui sont multimilliardaires, qui font des trucs de ouf, et est-ce que ce sont des surhumains? Ils ont la même quantité d'heures que toi. Quelle est vraiment la différence entre lui et toi, ou lui et moi? Et même entre toi et moi, quelle est la différence? Quelle est vraiment la différence? La différence, c'est la gestion du temps. Pourquoi tu n'as pas autant de clients que moi? Pourquoi tu n'es pas aussi visible? Pourquoi, etc., etc. J'ai décidé de mettre de l'énergie dans certaines choses qui vont me démultiplier, qui vont être diffusées pour que je sois vu le plus souvent possible. Je donne un chiffre pour moi qui me scie à chaque fois. Tu vois, mes écoutes de podcasts et de vidéos, je fais beaucoup de stats sur beaucoup de suivi sur mes chiffres. Chaque mois, écoute bien. Hein, toutes mes vidéos, tous mes podcasts, tout confondu, tous les lives, tout confondu. Chaque mois, je suis écouté 30 000 heures par mois. En tout. Tout ce que je fais, tout confondu. 30 000 heures. 30 000 heures, ça représente, je crois que... Attends, j'avais fait le calcul la dernière fois. Qui était assez rapide pour faire un calcul de 3 000 heures par mois avec une quantité par jour de 2 heures d'écoute par jour, parce que c'est ça la moyenne chez moi. La moyenne, c'est les gens, ils sont en moyenne entre une heure et deux heures d'écoute. Alors, viens, on part sur le principe de deux heures d'écoute, donc 120 minutes. Donc, 30 000 heures par mois à hauteur de 120 minutes d'écoute par jour, ça fait combien d'années? Donc, le calcul, c'est 30 000 heures divisé par 30 000 heures, donc on est à 120 minutes, 30 000 heures. Il faudrait qu'on les mette en secondes. Donc, ça fait combien de temps en année? Vous voulez que je fasse le calcul tout de suite? Donc, on va faire 30 000.
Pour combien d'années? Pour une année?
C'est pas sûr de combien d'années? 30 000 heures divisé par... faites pas par deux. On va faire ça multiplié par 60. On va la mettre en seconde. Donc, on a 30 000 heures d'écoute par mois. OK? 30 000 heures. Ah, j'ai détesté cette calculatrice de l'iPhone. 30 000 heures multiplié par 60, ça fait 2 secondes. Donc, on a 1 800 000 secondes. OK? Et moi, je dis, ils écoutent 120 minutes par jour. Donc, divisé par 120. On se retrouve à 15 000. Ça fait combien ça? Putain, je suis complètement déboussolé ce matin.
Tu m'as perdu là.
Non, je vais faire le calcul tout à l'heure. Ma tête ne fonctionne pas maintenant. L'idée, c'est combien c'est 30 000 heures par mois qui sont écoutées. À hauteur de 2 heures d'écoute par personne, ça fait combien d'années d'écoute? 30 000 heures, ça fait combien d'années d'écoute chaque jour? Dire, moi, je travaille combien d'heures par jour? Je travaille 7, 8, 9, 10 et je suis écouté 30 000 heures à la fin du mois. C'est beaucoup, 30 000 heures. Mais en fait, c'est pas n'importe quoi, j'ai raconté ça, 30 000 heures. On divise par 30, ça fait 1 000 heures par jour. 1 000 heures par jour. Divisé par 2, ça fait 500 jours par mois. Chaque jour, je travaille 500 jours. Parce que si les gens ils m'écoutent 2 heures par jour, chaque jour, je travaille 500 jours. parce qu'il y a plein de gens qui écoutent et plein de gens qui m'écoutent en même temps. Une vidéo de 3 minutes que j'ai fait sur TikTok a fait 500 000 vues, ça représentait 3 000 ou 4 000 heures d'écoute, ou 8 000 heures d'écoute. C'est énorme. 8 000 heures, il y a des gens qui m'ont regardé, ils ont entendu ce que j'ai à dire. C'est énorme. Et plus tu te démultiplies, plus tu diffuses ton contenu, plus tu es vu. C'est simple. Et les vidéos travaillent pour toi. Donc, est-ce que je te disais, Sandra, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, en fait. Genre ça. Je suis parti n'importe où là aujourd'hui. Laisse tomber, j'ai perdu les pédales. L'idée, Sandrine, c'est que quand tu vas démarcher pour un, tu démarches pour plusieurs. Donc, ouais. Si tu démarches pour un, tu prospectes un mandat et tu le diffuses. Et après, si jamais celui-là, il ne veut pas, ben, ce n'est pas grave. Tu auras d'autres acheteurs qui vont venir. Mais l'idée, c'est de chercher à économiser ton temps. Donc, okay. Tu n'as pas le droit de perdre ton temps. Voilà, si tu veux retenir une règle, c'est ne perds pas ton temps. Mais vraiment, ne perds pas une seconde de ta journée. Chaque minute doit être employée à bon escient. Chaque minute, chaque seconde. C'est notre travail. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de faire ça. » Non, mais ils sont capables de regarder 2 heures Netflix et suivre Breaking Bad pendant 2 semaines d'affilée. Mais ils t'ont dit « j'ai pas de temps ». Et après, quand tu dis « Oui, mais tu regardes Netflix », ils disent « Oui, mais quand même, il faut se reposer de temps en temps. » Bah ouais. Ils ont toujours des excuses, toujours. Et la différence entre Jeff Bezos et nous, c'est qu'il a réussi à démultiplier son temps à l'infini. Juste ça. Et donc, le secret pour être un bon entrepreneur, c'est savoir faire, mais surtout ne pas perdre de temps. Et tu ne peux pas rester à essayer de travailler pendant 7 heures d'affilée en pensant que c'est ça qui va te ramener du résultat. Quand je vous parle des réseaux sociaux, de mailing, d'automatisation, et toutes ces conneries-là, c'est pour faire quoi ? C'est pour éviter de perdre du temps.
D'accord.
Je dépense entre 2 000 et 3 000 euros par mois de logiciels. Et chaque logiciel, il est censé m'économiser du temps. Alors, pendant que je te parle en ce moment même, il y a des publicités qui sont diffusées, d'accord ? Qui vont chercher des clients, qui vont payer quelque chose que je suis en train de vendre, ou etc. Donc, chaque jour, la publicité qui tourne, là, je suis en train de travailler avec toi, là, mais il y a des gens qui sont en train de me regarder, en train de travailler d'une autre manière.
D'accord ?
Et donc, ils sont en train de travailler, mes pubs sont en train de travailler, en fait, c'est mon argent qui est en train de travailler. Et les gens, ils sont en train de regarder, ils sont en train, en ce moment même, d'acheter, ou de regarder, ou de cliquer, ou ils sont en train de réfléchir à quel truc qu'ils pourraient me poser comme question, etc. Donc, en ce moment même, je bosse 1000 fois plus que toi déjà. Pendant que toi, tu es en train de me regarder, tu fais absolument rien d'autre.
Ah ben non.
Pendant que toi, tu me regardes, moi, je fais des milliers de choses en même temps. Pendant qu'on parle maintenant, alors si je pouvais le montrer en temps réel, je le ferais, mais pendant que je te parle maintenant, il y a des mails qui partent automatiquement. Tiens, le B-Morning, il arrive. Attention, connecte-toi, dans 1 heure, ça commence. Et tu vois, même si c'est des trucs automatiques, ça, c'est un travail que moi, je fais pas. Je ne fais pas de relancer les gens. Attention, B-Morning, c'est 8h30. Et tous ces trucs-là qui automatisent le système. Par exemple, mes vidéos, elles se baladent, il y a toujours le lien vers mon agenda. Ça veut dire que pendant que je parle, je dis « Salut les amis, si tu as une question, on vient prendre rendez-vous avec moi. » Pendant que je suis en train de travailler ici, il y a quelqu'un qui est en train de prendre rendez-vous quelque part ou s'imaginer la possibilité de deux, etc. Ou en train d'écouter un podcast. Et pendant qu'il écoute mon podcast, il est en train d'être convaincu de moi. Et donc, pendant que je te parle, là, je travaille de plusieurs manières différentes tout autour de moi, etc. Si je devais le faire tout manuellement, ben, je n'avance pas un centimètre. On n'avance pas. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour voir chacun d'entre vous. Pendant que vous êtes en train d'écouter 1 heure, vous perdez 1 heure. Chaque fois que je parle avec vous, je gagne 1 heure. Je gagne des milliers d'heures, en fait. Parce que 1 heure de chacun d'entre vous, c'est 30 heures de travail déjà.
On va se cloner. Je vais me cloner.
Ben oui, mais une vidéo, c'est le clonage. Putain, c'est une bonne métaphore, ce truc. C'est une super métaphore. En fait, une vidéo, c'est un clonage. C'est exactement ça. Putain, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Merci, Sandrine. Je vais en faire une vidéo de ce truc-là, je t'assure.
Ah ben oui, il faut se cloner, de toute façon.
C'est ça. Mais je t'assure, c'est une vraie métaphore, enfin, une vraie analogie. Quand je fais une vidéo, je suis double. Oh, il y a un deuxième Daniel. Il y a un troisième Daniel, il y a un quatrième Daniel.
C'est ça.
Et qui se balade dans toute la planète. Ben oui, c'est exactement ça. Je n'avais pas fait le truc. Mais c'est ça. On se clone en faisant des vidéos.
Ah ouais, bah oui. Ça, c'est ça.
Voilà.
Ok, donc t'as compris, donc
ne perds pas de temps, d'accord ? Mais alors, si par hasard l'acheteur il te dit j'ai ça dans ta tête et je cherche ça, toi tu dis j'ai ça, fais la visite. Mais quand tu fais la visite, ne ressors pas de chez le vendeur en disant bon, allez, à bientôt, ça ne lui plaît pas, on se casse. Non, tu restes là-bas, tu prends un mandat pour d'autres.
Ouais.
Quand tu prospectes pour un, tu prospectes pour plusieurs. Ok, ouais. C'est surtout ça. Et quand tu as un acheteur, il faut ne te prends pas trop la tête avec lui, sauf s'il y en a plusieurs comme ça. Ça vaut le coup de chercher un 45 mètres carrés pour 5 personnes que pour une personne.
C'est clair.
Tu as 5 fois plus de chances de vendre, c'est tout.
Sûr. Ouais.
C'est tout. C'est ça l'idée de base. Après, si tu veux perdre ton temps, tu perds ton temps. Moi, je peux.
Non, j'ai pas envie de perdre mon temps. Je parle déjà de mon temps quand on est à la maison.
Non, il ne faut pas perdre son temps. C'est vraiment la chose la plus importante de tout dans votre vie. On a tous la même quantité d'heures. On a tous la même quantité d'heures qu'on se lève le matin. Je ne me rappelle plus combien d'heures et de minutes on a toute notre vie, mais on a tous la même quantité. Oh. Juste la même quantité. T'as compris ? Ouais, c'est bon, ouais. Tu avances comme ça. Okay ? Et ne te stresse pas, parce que ça va t'arriver tous les jours. Hein. Si tu communiques bien, tu travailles bien, tu tapes aux portes, tu vas dans des cafés, dans des bars, pendant la journée, pour boire un verre, pour parler avec des commerçants, tu vas voir que tu vas rencontrer plein de gens. Et si tu fais ça bien, hein, ça fait 2 heures de prospection terrain par jour, tu vas rencontrer plein de monde. Et à chaque fois, quand tu vas évoquer le sujet immobilier, il y a toujours quelqu'un qui va te dire « Ah, mais je cherche ça, oh, je cherche ça, t'as pas quelque chose pour moi ?»
Mais
donc,
c'est ça, on
mais je sais à chaque fois. Mais je sais. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand on te demande hein, qu'est-ce que tu fais?
Ah, mais moi, je prends les coordonnées, moi.
Je sais que tu prends les coordonnées, mais tu mets dans un bout de papier, n'est-ce pas?
Voilà.
Ok, et ça, c'est de la merde, on fait pas ça. On fait pas ça. Je sais pas si Eric, il a un truc central chez lui, je vais lui poser la question. Mais s'il n'a pas un endroit central où vous tous, vous avez le même outil pour enregistrer vos acquéreurs, je vais lui en donner un. Mais à la base, ce que tu dois faire, c'est OK, tu prends sur un bout de papier quand tu es dans la rue, mais une fois que tu as pris sur un bout de papier, tout de suite, tu enregistres ce contact dans ta base de données. Votre vie à vous, c'est une base de données. D'accord ? Tu comprends ? Donc, chaque contact que tu as, tu ne mets pas sur un bout de papier. Le bout de papier, ça ne te servira à rien. Voilà, j'ai un bout de papier ici. Voilà, comment je fais pour cliquer, pour l'appeler ? Comment je fais pour...
Non, mais après, je l'enregistre. Hein. Après, je l'enregistre sur mon téléphone, moi.
Ouais. Ouais, pas le téléphone. Ouais. Fichier Excel, pas téléphone. Okay. Fichier Excel, okay,
ok.
À quoi ça te sert le téléphone? Tu vas l'enregistrer sur quoi? Recherche appartement 45 mètres carrés.
Bah, c'est ce que je fais.
Je sais que c'est ce que tu fais. Non, tu crois qu'on n'est pas passé par là déjà? Donc, je sais que c'est ce que tu fais parce que tu t'en fous. Il s'appelle Jean-Claude Simon. Tu peux pas te rappeler Jean-Claude Simon, qu'est-ce qu'il recherche? Alors tu mets la recherche. Mais tout le monde fait ça. Bon, et ça sert à quoi? À rien. Tu es en train de marcher un gars, tu fais je me rappelle Jean-Claude Simon. Tu peux pas.
Ouais.
Il y a tellement de gens, tu ne peux pas te rappeler de ça. On n'est pas des génies, nous, on n'a pas une mémoire monumentale. Tu ne pourras pas faire ça, tu comprends? Et moi, je ne fais pas confiance à ma mémoire.
Oui, on ne peut pas générer indéfiniment les visages et les prénoms, ça c'est sûr.
Je ne peux pas.
Quelques-uns, mais pas tous. Ouais.
Mais, même le quelques-uns, tu l'as rencontré 5 minutes. Pourquoi tu crois que ça va être ancré dans ton cerveau? Tu sais, on a une mémoire courte et une mémoire longue, d'accord? Et la mémoire courte, elle nous sert... à regarder, réfléchir, penser, retenir des informations maintenant, mais très peu de temps, parce qu'ils ne sont pas très intéressants, ces informations. Par exemple, est-ce que tu te rappelles la tâche qu'il y avait sur ta télévision ce matin quand tu t'es levé? Ça se trouve, il y avait une tâche, mais maintenant, tu n'y penses plus, parce qu'il y a des trucs, des petits détails dans notre vie qu'on collecte avec notre cerveau. Mais si tu gardes toutes ces informations, ton cerveau, il explose. Donc, ça arrive dans ta mémoire courte et hop, ça s'efface. Ça arrive, ça rentre, ça sort, comme si que ça n'est. Et même avant, ton cerveau, il ne le garde pas. Il te dit non, ça n'a aucun intérêt de voir de la poussière. Parce que si tu te rappelles qu'il y avait une poussière là et que tu te rappelles toutes les poussières qu'il y a autour de toi, ton cerveau, il tient pas la route. Donc, il faut qu'il sélectionne les informations qu'il doit retenir. L'information, par exemple, quand tu veux te rappeler un numéro de téléphone, tu as vu une affiche, tu te rappelles le numéro de téléphone, alors tu veux le noter parce que tu sais que tu ne vas pas t'en rappeler. Mais si tu essaies de le garder en mémoire ou une plaque d'immatriculation, tu vas faire comme ça, 47, 27, 32, 21, 47, 27, 32, 21. Tu essaies de le garder longtemps dans ta tête parce que tu as peur que cette information disparaisse. Et à force de te la répéter, tu vas croire que ça va rester, mais ça ne reste pas.
Non.
Ça ne restera pas parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la mémoire. La mémoire ne fonctionne pas en essayant de s'en rappeler de quelque chose. La mémoire, elle fonctionne si jamais tu lis l'information que tu es en train de collecter avec une certaine émotion ou un sentiment.
Mmh.
Rappelle, tu sais que tu as des souvenirs dans ta vie. Si tu fais gaffe à tous les souvenirs que tu vas voir qu'ils ont tous été générés et attachés à une certaine émotion. Mmh. Donc, tu vas te rappeler d'une certaine odeur, mais pourquoi ? Tu vas te rappeler d'une certaine chanson, mais pourquoi? Tu vas te rappeler d'un certain film, tu vas te rappeler que tu as été là-bas quelque part, tu vas te voir déjà vu quelque part. Enfin, y a plein de choses qui te rappellent plein de choses. Mais pourquoi? C'est les émotions. Tu as lié une information à une émotion. C'est presque comme la blockchain, tu vois, l'information elle est collectée, elle est gardée ici, et on ne peut plus la bouger. Parce qu'elle est collectée avec une émotion. Ça aussi, quand les gens ils ont des traumatismes, ils vont effacer une partie de leur vie parce qu'ils ne veulent plus la garder, cette information. Alors, la mettre de côté. Mais elle est toujours là. Elle est toujours là, cette information. Donc, toutes les informations liées à les émotions, tu vas les garder. Et c'est pour ça que quand on fait de la pub, du marketing, du travail, du démarchage, peu importe, on doit devoir générer des émotions pour qu'ils s'en rappellent de toi. Quand je dis un peu d'humour dans le pitch, c'est pour que les gens passent un bon moment avec toi. Pourquoi? Parce que s'ils passent un mauvais moment avec toi, ben ils vont se rappeler de toi, mais en mal. S'ils passent un bon moment avec toi, ils vont se rappeler de toi, mais en bien. Donc déjà, qu'ils ne t'aiment pas ou qu'ils t'aiment, c'est bien. Mais maintenant, s'ils te raccrochent au nez au téléphone, ils n'ont pas vu ton visage, ils ne pourront pas lier l'information entre hop, une négociatrice qui s'appelle Sandrine et qui m'a appelé hier. L'information est trop courte et elle n'a pas impacté. Donc si jamais tu impactes les gens d'une manière ou d'une autre, ils vont se souvenir de toi, ton visage. Ça ne m'arrive pas aussi souvent que ça, mais ça m'arrive qu'on me reconnaisse dans la rue. Ça m'arrive. Ou ça m'arrive que les gens ils me disent « Ah, mais je te connais de quelque part, toi. Ah, mais tu n'es pas le mec de TikTok, tu vois, parce qu'ils ne se rappellent pas de toutes les informations, Daniel Nadjar, nanani, nanana. Ils ne se rappellent pas de tout, mais c'est passé devant eux quelque part. Tu vois, c'est passé. Et s'ils ont écouté 3 secondes une vidéo et ça les a impactés d'une manière ou d'une autre, ils vont s'en souvenir. Peut-être pas à vie. Et pour que ça soit un souvenir à vie, il faut que je continue à leur en donner. Et il faut que je continue à implanter cette information dans le cerveau. C'est pour ça que tu te rappelles des visages des acteurs.
Ouais.
Tu te rappelles le visage de Brad Pitt, mais tu ne te rappelles pas le visage de, je ne sais pas comment il pourrait s'appeler, là, Pierre Cloudy, qui était figurant dans un film avec Lucky Lee. Tu te rappelles de Lucky Lee, mais pas du figurant qui est derrière. Moi, je te viens de te sortir un prénom qui n'existe pas. Parce que tu peux pas
te rappeler. Parce que j'étais en train de me dire. Mais
parce que tu ne te rappelles pas non plus. Tu vas te rappeler de la star, mais tu ne vas pas te rappeler des figurants ni des deuxièmes rôles. Parce que ce n'est pas eux qui nous impactent. Tu vas te rappeler de Brad Pitt, de Tom Cruise, mais tu ne vas pas te rappeler de la nana qui joue dans le film avec lui. C'est lui qui joue les émotions, ce n'est pas les autres. Donc, on se rappelle de certaines choses, celles qui sont chères à nous et pas les autres. Par exemple, toi, tu te rappelles exactement du visage de ton fils ou de ta fille. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Tu te rappelles leur visage, tu connais exactement leurs pieds et leurs mains. Ils sont faits. Maintenant, tu te rappelles. Maintenant, si jamais tu as un pote à toi, une amie à toi qui te montre le visage de ses enfants, l'info, elle rentre, elle sort, parce que tu as rien à foutre, c'est pas tes enfants. Sauf si maintenant, ils jouent ensemble, ton fils et sa fille, etc. Et après, il y a des moments sympathiques, ce sont des petits bisous. Et là, tu te rappelleras de cette image. Mais s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. C'est une information qui ne sert à rien. C'est comme regarder le mur. Si maintenant, je regarde, j'ai une tâche en face de moi sur le mur. Si maintenant, cette information, elle reste dans ma tête maintenant, toute la journée, je pense à cette tâche. Mais le cerveau, il me dit à quoi ça sert de retenir ce genre d'information. Ça sert à rien. Le cerveau s'en fout. Et c'est du temps perdu pour lui. C'est de l'énergie perdue pour lui. Donc, il jette l'information. Tu vois, il jette. Il n'y a aucun rapport. La tâche, elle ne m'a rien fait. Maintenant, si la tâche, elle me fait comme ça, oh putain, une tâche. Tu vois, il y a des émotions graves par rapport à une petite tâche. Donc, peut-être que je vais m'en rappeler. Mais je ne m'en rappellerai pas. Donc, on élimine les informations qui ne servent à rien. On élimine les pertes de temps pour des gens qui ne servent à rien. Et on se concentre sur qu'est-ce qui est vraiment efficace. Il faut être efficace et pas performant. C'est-à-dire qu'il faut chercher à obtenir des résultats plutôt que de chercher à faire beaucoup de choses qui ramènent zéro. Par exemple, efficace, c'est à la fin de la journée, j'ai 3 rendez-vous. Performant, c'est j'ai travaillé pendant 6 heures pour démarcher quelqu'un. D'accord ? La performance, c'est de la longue durée, faire des choses. Mais le résultat, c'est l'efficacité de ce que tu as fait en performance. Donc, l'idée, c'est d'être efficace et pas performant. Ça ne sert à rien, par exemple, que quelqu'un, et vous m'avez entendu le dire déjà, plusieurs fois où les gens ne veulent pas faire la prospection téléphonique, alors ils passent 6 heures, 7 heures sur le terrain. Ça, c'est la performance. Chercher à être performant sur un truc, mais le résultat, il est où ? Non, je vais faire 6 heures. Tu as l'impression que tu bosses, mais tu ne bosses pas. Performant, ce n'est pas efficace. Donc, il faut être efficace et tu peux réduire la performance. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de travailler 6 heures pour avoir un résultat. Quand les gens ils passent leur vie à faire du terrain parce qu'ils ont peur du téléphone, ils n'ont pas compris que le téléphone, en fait tic, 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 j'arrive dans la tête du gars direct. Alors que le terrain, il faut que je trouve déjà le gars. Donc, on perd beaucoup de temps alors que le raccourci, il est là. Tu appelles. Et donc, les gens, ils perdent du temps au lieu de prendre la solution efficace. Appel. C'est le raccourci. C'est juste le raccourci. Non, je préfère aller le chercher, le gars. Je préfère aller marcher pendant 6 heures pour le chercher. Mais le numéro, il est là. Hein. Il est sur le bon coin, là. Tu n'as plus qu'à cliquer. Non, je marche. Et si...
Ah ben là, il perd du temps, là.
Une fois, j'étais sur une application de rencontre, il y a une nana super moche qui me contacte. Déjà, dans ma tête, quand elle me contacte, je dis, toi, tu veux parler à moi ? C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, c'est pas possible, c'est un truc qui cloche. Et à un moment donné, elle me demande mon numéro de téléphone. Et je lui dis, écoute, si on est fait l'un pour l'autre, tu vas le deviner.
Voilà. On a deviné, là.
J'ai une question. Alors, c'est peut-être Franck qui va pouvoir me répondre, je ne sais pas. Concernant les loyers.
Regarde, je ne connais même pas la question. Je ne connais même pas la question. Regarde, je connais même pas la question, Franck. Mais elle t'a déjà mis au même niveau que moi, voire plus.
Non. Mais non, toi, ça va te saouler.
Non, non, mais deux secondes, Mélanie. Deux secondes. T'imagines ce qu'elle vient de faire, Franck? Ça, c'est juste pour rehausser ton ego là. C'est-à-dire, elle dit, elle a pas dit, Daniel, j'ai une question, et peut-être que Franck pourra m'aider. Elle a pas dit ça.
C'est mais non, c'est pas point. Ça.
Je sais que Franck va m'aider. D'ailleurs, Daniel, il n'existe pas. Regarde.
Comment... Je suis sûr, Daniel, que vous êtes arrangés tous les deux avant, Mélanie et toi, dire, attends, on va piéger Franck. Vas-y, Mélanie, je t'écoute.
Mais regarde, Mélanie, je t'écoute. Attends, je me casse.
Non.
Allez, je disparais. Hop,
pas dans la merde. Mais
je sais même pas.
Franck, tu es la star. Vas-y, Franck. Vas-y.
Non, je suis pas dans la merde.
Vas-y.
Mais c'est une question un peu de merde en plus. Alors bon, c'est concernant l'encadrement. Plus.
Des... oui.
Franck, je te laisse tes questions de merde. Vas-y.
L'encadrement des loyers. Je me dis, si quelqu'un ne respecte pas, il y a quoi comme contrôle en fait sur ça? Parce que
le contrôle, c'est le locataire. C'est-à-dire que si le locataire, il estime qu'il paye trop cher, c'est-à-dire que dans chaque municipalité, il y a un loyer médian qui est déterminé, et le locataire, il a accès à ce loyer médian. S'il s'aperçoit que son loyer il est beaucoup trop élevé, il peut engager une procédure pour la révision du loyer avec effet rétroactif.
D'accord. Ah oui, là, ça peut faire mal.
Ça peut faire très mal, oui.
Et par rapport aux prestations, parce que pour rehausser de quelques pourcents, là, on peut faire valoir le confort et tout ça. Et qui juge de ça?
Encore une fois, c'est les... Alors, il y a. Je ne les ai pas tous en tête, hein, mais la notion de confort, ce n'est pas juste parce que je mets un sèche-linge. La notion de confort, c'est vraiment la notion de confort. C'est-à-dire que dans une colocation, souvent, ça, on parle de confort dans la colocation. Les chambres, par exemple, la colocation ou le co-living doit être équipé, par exemple, ça peut être avec un magnifique balcon dans la chambre. Ça peut, là, on peut effectivement avoir des sursalaires, des surloyers, je veux dire. Mais c'est laissé, encore une fois, à l'appréciation.
D'accord, du locataire. Donc, si le locataire est d'accord pour signer un bail avec ça en connaissance de cause, finalement…
C'est le locataire qui. Après, il y a ça, et bien évidemment, il y a le permis de louer, c'est-à-dire qu'il y a les municipalités où il y a un permis de louer.
Ah, je ne sais pas ça. Et Daniel, ouais. Daniel revient.
Ben non, mais il faut voir le dossier.
Vous me dites quand vous avez besoin d'aide, hein, j'arrive. Non, mais attends, je laisse.
Vas-y.
Je laisse Franck.
Non, mais vas-y.
Je culpabilise.
Non, ne culpabilise pas. Il a donné très bonnes réponses, Franck. Très bonnes réponses. Sauf, il y a un truc que vous ne comprenez pas, c'est que ce n'est pas le. Ce n'est pas ni le propriétaire ni le locataire qui décide ce qui se passe, c'est la loi. Et dans la loi, les choses sont très claires. D'accord ? Encadrement des loyers, c'est encadrement des loyers. Point à la ligne, c'est tout. Le confort et tout ça, c'est, comme il a dit Franck, c'est l'appréciation. Donc, il n'y a pas des choses à discuter là-dedans. Et ce n'est pas une question de est-ce que le propriétaire peut écrire ce qu'il veut et le locataire, il signe, donc c'est OK. Ce n'est pas comme ça. Tu vois, par exemple, si dans un contrat de travail, par exemple, je t'embauche, d'accord ? Et je te dis, Mélanie, combien tu veux gagner ? Moi, je veux gagner 1 500 € du SMIC. Moi, je te dis, je te paye 5 000 par mois. Mais par contre, tous les jeudis soirs à 17h30, tu montes sur une chaise, tu dis « Daniel, c'est le meilleur, Daniel, c'est le meilleur. » Et tous les matins à 6h30, tu dis « Allez, Daniel, il est le meilleur. »
Vas-y, je signe de suite. Là.
Ah bah moi aussi.
Imaginons que pour toi, c'est exagéré, tu vois. Et tu signes quand même. Tu pourrais aller le lendemain au prud'homme et dire « Voilà, c'est clause abusive, c'est le genre de choses que tu n'as pas le droit de faire. » Tu comprends ? Donc, on peut, dans la théorie, rédiger ce qu'on veut. Dans la pratique, il y a des lois. Ok, et donc ce n'est pas une question de ce que le locataire accepte ou pas. Il y a des montants, il y a des tarifs, il y a une loi, point. Alors, qui va te contrôler? C'est toujours la même chose, Franck, il a répondu pile poil à la bonne réponse. Le contrôle, c'est le locataire, mais il doit se plaindre. Mais s'il ne se plaint pas, ok, et qu'il y a un contrôle, ça peut arriver aussi. Donc, d'un côté, il y a la délation, le locataire, il se dit « Ah, j'ai été spoilé, j'ai été… »
Stop. Si tu es négociateur en immobilier, peu importe le réseau dans lequel tu es, je peux t'aider à développer ton chiffre d'affaires. Il suffit juste de rejoindre notre école et rejoindre l'abonnement intégral. Intéresse-toi, le lien est juste en bas dans la vidéo. À plus.
On m'a eu, quoi, je me suis fait arnaquer. Il se plaint. Il se plaint à qui? D'une manière générale, ça remonte à la DGCCRF. D'une manière générale. Ça va remonter chez eux. Mais donc, ce n'est pas une question de confort. C'est par exemple, dans la loi... Est-ce que j'ai le droit de louer un appartement vide? Bien sûr que oui. Il y a zéro confort dedans. Il n'y a pas de confort.
Oui, mais pour avoir les 20% au-dessus de l'encadrement, enfin du loyer médian, on peut faire valoir.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si, il peut avoir du confort si, par exemple, l'appartement, il y a un magnifique jardin, alors que c'est pas. En fait, il faut pas que ce soit l'habitude. C'est-à-dire que si ce genre de bien, il n'y a jamais de balcon, s'il y a un grand balcon, eh bien, on considère que c'est du confort. Un confort ou quelque chose en plus par rapport, je dirais, au commun, je dirais, des appartements du quartier ou un T2, s'il a un T2. Enfin, une maison avec un jardin, avec un parc, bien évidemment qu'il y a un surloyer. Comme par exemple, tu vas prendre à Paris un intramuros, si tu as un appartement avec balcon, bien évidemment qu'il y a un surloyer. Parce que c'est pas courant d'avoir un magnifique balcon dans Paris, ou j'irais un, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir, un garage par exemple, le fait que l'appartement soit avec un garage dans Paris, bien évidemment qu'on peut appliquer un surloyer. Parce que c'est pas courant l'appartement avec son parking.
En fait, tu pourrais dire que tous les appartements, ils ont un confort supplémentaire, mais à un moment donné, il y aura un contrôle.
Ah oui, bien sûr.
S'il y a un contrôle et qu'à la fin, le gars qui contrôle dit, mais non, il y aura un spécial à votre truc, hein, c'est juste quatre murs, ouais, mais il a gagné 20% en plus, ben, ils vont te redresser. C'est comme les impôts, c'est comme plein de trucs. Le contrôle, la majorité du temps, ils sont aléatoires. Et donc, la DGCRF, par exemple, elle se balade dans les agences immobilières, mais de manière aléatoire. À quel moment elle commence à cibler une agence? C'est quand il y a eu de la délation. Donc, à un moment donné, si le locataire ne se plaint pas, il est content. Il est content, je comprends, il est content. L'appartement, il le paye cher, mais il y a des super prestats, il y a un jacuzzi, je ne sais pas, moi, il y a du ménage dans l'immeuble, je sais pas. Il est content de la prestation de l'appartement dans lequel il habite. Tout a été refait à neuf, il y a Internet, je sais pas, on lui a remis de la fibre optique. Le mec, il est content, d'accord, il est content. Bah, tout va bien. Maintenant, s'il pense qu'il a payé 600 euros au lieu de 500 euros, parce qu'il pense que le mec il a rajouté 100 euros juste parce qu'il a envie d'augmenter le loyer, alors qu'il pense que de manière générale cet appartement il vaut pas plus que 500, il peut se plaindre. Il peut se plaindre après avoir
Oui,
signé
puis
le bail. Après
il peut
avoir
changer
signé le bail.
d'avis, il peut.
Par exemple, si tu es intelligente, d'accord, mais t'as pas d'argent, d'accord, et tu tombes sur un vrai pauvre type de marchand de biens, tu vois, qui te met un appartement tout dégueulasse et il te fait signer un bail parce que tu as la dalle, parce que tu n'as rien d'autre, parce que tu es à la rue. Et il te fait signer un bail de merde, vraiment, tu vas louer 900 euros, un taudis, d'accord? Si tu es intelligente, un tout petit peu maligne, tu signes. Et juste après que tu as signé, tu te plains. Parce que c'est lui qui va perdre. C'est lui qui va perdre. Donc, il faut être juste honnête avec les gens. Là, par exemple, il y avait des grosses polémiques à l'époque où les gens louaient des locaux commerciaux, mais en tant qu'appartement, ils aménageaient d'une certaine manière l'intérieur, mais ils te louaient en tant qu'appartement. Donc, les gens qui ne comprenaient pas la différence entre un appartement et un local commercial, donc, ils savaient pas qu'ils pouvaient se plaindre. Une fois que tu te plains, c'est fini, l'autre, il a perdu. Donc, ils font toujours des arrangements au black, etc. Par exemple, voilà, je te donne une astuce de marchand de biens de l'époque, ok? Les studettes, tu vois, tu as le droit minimum 9 mètres carrés ou 23, ou 20 mètres cubes. Maintenant, quand tu avais des 9 mètres cubes, des 9 mètres carrés, des fois, c'était vraiment tout petit, d'accord? Et ça ne marchait pas terrible. Des fois, tu avais moins que 9 mètres carrés, vraiment. Je louais des trucs à 7 mètres carrés. Mais les 7 mètres carrés, tu ne peux pas louer en tant qu'appartement. Mais il y a des gens qui voudraient bien vivre dans un 7 mètres carrés. Il y a des gens qui n'ont pas de possibilité d'avoir ni un RIB, ni CDI, ni rien. Donc, ils travaillent dans la restauration la nuit, donc ils ont du cash. Et ils sont prêts à payer 600 euros ou 700 euros sur un truc tout pourri. Eux, ils ont besoin d'un toit. Donc, ils sont prêts à signer n'importe quoi. Et donc, ils vont signer un bail. Ils vont signer un bail. Mais il y aura un bail, par exemple, réserve. Donc, le marchand de biens, il n'écrit pas studette, il marque réserve. Et donc, le gars, il habite dans une réserve. Le marchand de biens, lui, il pense que c'est légal de marquer réserve. Ben, ce n'est pas légal de marquer réserve si tu sais que le locataire va y dormir. Alors, maintenant, tu vas dire, si on t'attaque, tu vas dire, ouais, mais moi, je ne savais pas qui dormait dedans. Moi, je vais une réserve. Et le locataire va dire, non, tu te fous de ma gueule, non, ce n'est pas vrai, non. Tu m'avais dit que je pouvais dormir dedans, c'est même toi qui m'as donné le matelas. Et après, c'est sa parole contre l'autre, tu vois. Mais à la fin, le marchand de biens perdra toujours. Perdra toujours. Parce que le mec, qu'est-ce qu'il a à mettre une réserve? Il comprend qu'il n'a pas de situation. Le juge, il n'est pas débile non plus. Donc, toujours rétroactif, tu vois, toujours rétroactif. Tu peux faire des conneries et si on t'attrape, t'es mort.
Oui, je posais cette question parce que j'ai une vendeuse qui hésite en fait à vendre ou à continuer à louer. Son loyer est au-dessus de l'encadrement des loyers parce qu'il était loué avant l'encadrement.
C'est l'offre et la demande. S'il n'y a vraiment pas de bien et elle n'a pas le choix, elle va le prendre.
Non, mais s'il y a déjà un
Et
locataire en place
en
et que
fait,
le
si elle change.
locataire paye le loyer avant l'encadrement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de rétroactif. Si hein.
Non, mais si elle le vend et que du coup, le locataire s'en va, et, enfin, au niveau de la rentabilité, ça va baisser. C'est ça.
Ah oui, si le locataire. Oui, oui, ça oui. Alors, c'est mais si le locataire reste en place, voilà.
Oui, si le loyer continue.
Ouais. Ce que je te conseille de regarder, de faire, c'est que quand tu as un produit genre rentable, enfin pour investisseur, ben tu ne vas pas te baser sur le loyer actuel, tu vas te baser sur la moyenne, le médian. Tu comprends, tu te bases là-dessus. Comme ça, si jamais le locataire part, oui, là. Parce qu'il y a plein de truands sur le marché, d'accord? Je te donne des exemples, d'accord? Moi, j'ai vu ce genre de choses toute ma vie, d'accord? Et par exemple, tu as un propriétaire qui veut vendre un investisseur son bien à louer, d'accord? Il te dit, voilà, j'ai un locataire, il me paye 1200 euros de loyer par mois, ok? Mais l'appartement, il ne peut pas se louer à plus que 800. Mais lui, il te fait un truc, il te signe comme quoi, il te montre un bail, il te montre des quittances de loyer et il te montre un locataire. C'est-à-dire, quand tu vas visiter l'appartement, tu vois le locataire, tu vois une quittance de loyer, tu vois un bail. Et tu vois une caution déposée pour 1200 euros de loyer. Hein ?
Et c'est trompeur.
Non seulement c'est trompeur, mais c'est faux surtout. Moi, j'ai vu ça toute ma vie. Hein. Donc, il te fait des faux bails avec un Pakistanais qui a signé n'importe quoi. Donc, tu vends l'appart avec 12% de renta. Dès que tu as signé, le locataire, il n'existe plus. Il est parti. Et le loyer, tu ne toucheras plus jamais. Mais il t'a signé. Donc, il y a des gens qui sont sans scrupules, tu vois, et l'autre, il se fait avoir. Il y a des gens qui vont aller être procédurés, ils vont attaquer.
Voilà, moi je voulais savoir la vérité.
Voilà, la vérité, il y a la loi. Tu vois, quand tu es dans des zones tendues, il y a l'encadrement. Donc, il y a la loi. Il ne faut pas se battre contre la loi. Et si tu as un propriétaire qui te dit, moi je loue beaucoup plus que ça, et toi tu te bases là-dessus, tu es déjà en train d'arnaquer le futur acheteur. Donc, ne te base pas là-dessus. Si l'autre il veut louer plus cher, c'est son problème. Toi, tu donnes la loi. D'accord ? Toi, tu donnes la règle. Et si tu vois que c'est exorbitant le loyer qui est payé, tu le remets au niveau. Tu dis, le loyer normal, c'est celui-là. Donc, il vaut mieux faire un calcul là-dessus. Mais si vous arrivez comme lui à le louer plus cher, ça, c'est du bonus. Mais ce n'est pas à toi de proposer de louer plus cher.
Non, 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 surtout pas. Non, non, mais par contre, de dire, là, si votre locataire s'en va et que vous en prenez un nouveau, le nouveau bail, vous ne pourrez plus garder le même loyer. Et voilà, enfin, c'est ce que je voulais.
Ah non, il pourrait garder le même loyer, mais si jamais c'est faux et que, encore une fois, ne fais pas confiance.
Là, il est au-dessus de 200 euros le loyer, au-dessus du loyer médian. Il est loué 700 euros et en fait, l'encadrement.
C'est l'offre et la demande. S'il y a des gens qui sont prêts à payer, ils vont le payer. Si, regarde, un locataire.
Après, il y a une chose, il faut que tu saches, hein, Mélanie, c'est-à-dire que l'encadrement n'est pas systématiquement obligatoire. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux échapper à l'encadrement dans le cadre d'une résidence secondaire. Par exemple, si l'appartement, c'est juste pour de la résidence secondaire, il n'y a pas d'encadrement. Si, par exemple, comment on appelle ça
même Airbnb.
Cet même à Airbnb, il n'y a pas d'encadrement non plus.
D'accord.
En fait, les prestations qui permettent d'augmenter un loyer, en général, c'est par exemple une vue imprenable sur un tour Eiffel, un jacuzzi ou un sauna dans le bien, un équipement home cinéma, mobilier très haut de gamme. Je lis hein, ce qui est écrit. Hein. Vaste terrain sous jardin au cœur de Paris, hauteur sous plafond de 3,50 m, place de parking, etc. etc., etc. Tout ça, ça peut faire l'objet d'une augmentation du loyer, un complément de loyer. Mais encore une fois, si le locataire... va au juge, ça sera laissé à l'appréciation du juge. Hein.
Ok.
Donc, comme dit Daniel, à juste titre, c'est dangereux, faut se conformer à la loi, point. Et puis, comme ça, toi, en tant qu'agent immobilier, tu es dégagé de tout problème.
Ça, c'est l'officiel. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, tu dois dire, ça, c'est la loi, c'est comme ça.
Et c'est ok.
Tu comprends ?
Merci beaucoup.
Des vraies informations. Mais après, tu vois, par exemple, je donne une situation à Paris. Moi, j'ai toujours bossé à Paris, moi personnellement, mais mes négos, ils ont travaillé dans toute la France. Mais dans tous les centres, les grandes villes de France, la demande, elle est très forte en termes de location, très forte. Donc à Paris, la demande est très forte. Tu mets une annonce à louer, tu as 1500 de dossiers dans la journée. Tout le monde veut louer l'appartement. Et donc, il y a zéro locataire qui négocie le loyer, juste zéro.
Donc, oui.
Il y a tellement de demandes. Il y a tellement de demandes. Donc les gens, ils ne vont pas négocier, ils disent « Ah, 1500, je vais payer ». Et il y a des gens qui vont déposer, et ça fait partie du jeu, ils vont déposer 1000 dossiers ou 200 dossiers ou 300 dossiers sur Internet dans plein de trucs de location. Ils n'ont même pas visité des fois. Ils veulent juste qu'on accepte leur dossier. Et après, ils sélectionnent s'ils gardent ou pas le bien.
Donc, ouais, moi, j'ai fait la queue dans l'escalier hein, à Paris aussi.
Ouais. C'est bizarre. Mais après, tu dis, est-ce que j'ai été choisi ou pas ? Mais tu négocies pas le loyer. Donc, c'est l'offre et la demande. Donc, les gens sont capables de louer, de louer quelque chose très, très cher alors qu'il n'y a rien de spécial dedans. Mais c'est l'offre et la demande.
Oui, il y en a qui sont spécialisés pour accéder, pour accepter un loyer à 1500 alors que tu n'as le droit qu'à 1000 ou 900. Et après, ils ont 90 jours pour déposer un dossier pour encadrement de loyer. Et comme ça, ils ont accepté, je dirais, un loyer suffisamment important. Moi, je suis prêt à accepter n'importe quel loyer. Puis une fois qu'ils ont signé le bail, ben, ils vont voir, le médiateur. Et puis voilà. Donc, il faut faire attention. Hein.
Après,
ah ben, bien sûr, mais bien sûr que ça marche.
Et le locataire, imagine qu'il va déposer plainte et il va faire son dossier. Est-ce que tu crois
qu'il ne restera pas plus que 3 ans.
Le propriétaire, il va le faire chier après. Ils vont mal se parler. Et il va venir
faire... Ouais, mais ça...
Il va commencer à inventer un des systèmes. Écoute, je compte vendre un appartement, donc je te mets un congé pour vente. Et alors que c'est pas vrai. Il va le faire chier longtemps.
Un congé pour vente, il devra au moins attendre 3 ans. Hein. Il ne pourra pas le mettre en vente comme ça. Hein.
Oui, mais s'il a son fils qui veut.
Mais il peut faire peur au locataire. Il lui dit, monsieur, vous devez partir. Tu sais.
Je suis d'accord avec toi.
Les gens ne sont pas procéduriers, tu comprends? La majorité des gens ne veulent pas avoir des conflits. Donc, tu leur fais peur. Tu sais que, par exemple, des grosses entreprises dans le monde, tu vois, ils misent sur le fait qu'ils te vendent un abonnement, mais ils savent que si jamais ils te demandent, tu veux acheter, ben tu achètes au téléphone sans qu'on te pose de, tu vois, sans signer quoi que ce soit. Mais quand tu vas devoir résilier, tu dois faire un courrier recommandé avec une lettre manuscrite, avec des explications, etc. Ils partent du principe que les gens ne vont pas se plaindre et ils ne vont pas le faire. Donc, il y a beaucoup d'abonnements qui tournent, que ce soit sur des assurances, des garanties, des trucs ou des conneries. Et moi, je me suis fait avoir le mois dernier avec un truc. Je me suis fait avoir vraiment.
Non, grave. Je ne crois pas.
Et si, je te dis. Alors, je ne me suis pas vraiment fait avoir parce que je n'ai pas encore utilisé le service. Mais l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est Bouygues ou je ne sais pas quoi. Ils me disent ouais, bah, vous avez acheté un iPhone dernièrement, etc. C'est un iPhone 12. Vous voudriez bien avoir le iPhone 13 ouais, je veux bien. Ce serait bien d'avoir aussi l'iPhone 14. Je trouve que c'est cool. Ben, regardez, gratuitement, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez changer votre téléphone et passer du 12 au 13. Alors, ouais, super. Alors, comment je fais? Ben, vous n'avez rien à faire de spécial. Vous dites OK et vous pouvez le faire. Ah bon, c'est quoi le truc? Ben, c'est gratuit aujourd'hui, mais à partir de 3 mois, vous commencez à payer 49 € pour avoir changé, monté de niveau. Hein, et je dis, comme un bouffon, je sais pas, j'étais entre deux rendez-vous, je dis, ah bon, super cool, bah, envoyez-moi ça par mail. Non, mais alors, on le fait ou on ne le fait pas? Ouais, bah, on le fait, qu'est-ce que je dois faire? Bah, rien. Je dis, bah, faites. Et d'un coup, ça fait un mois que je l'ai fait, j'ai toujours pas changé mon iPhone. Je suis en train de payer. Je me suis rappelé hier, je dis, merde, je sais que j'avais un truc que j'ai fait. Et ils m'ont eu parce que c'était au téléphone. Donc, bien sûr, je vais voir ce que je vais le changer, l'iPhone.
Il n'y a aucun écrit, c'est pas possible.
Non, zéro écrit.
Il m'a dit ça
va être prélevé de Bouygues Télécom. Je me suis fait avoir.
Parce que moi, je me suis fait avoir aussi comme ça en achetant quelque chose chez Casto. Ouais. J'achète un article chez Casto, peu importe. À la fin de la facture, on me dit bravo, vous pouvez bénéficier de 20 € sur votre commande. Est-ce que vous voulez en bénéficier? Ben, je dis oui, bien sûr. Donc, je clique dessus, oui. Pour pouvoir être remboursé, il faut que vous donniez votre numéro de carte bleue. Je donne mon numéro de carte bleue. Et, on voit bien comme quoi il est bien marqué 0. Donc, je clique payer 0. Hein, et puis, tout de suite après, il y a d'autres fenêtres qui s'affichent. Et en fait, je me suis abonné à un truc à 40 balles par mois.
Et oui, mais sur Rakuten et sur Amazon, ils font des trucs comme ça.
C'est Casto.
Le pire, c'était il y a quelques mois, tu vois. Je crois que c'était pendant les élections. Donc, c'était Pécresse là, qui n'avait plus d'argent. Vous vous rappelez de celle-là là, qui
avait ouais. 500 millions.
Ouais. Peu cher.
Ouais, je vais chez Auchan, je crois, où je ne me rappelle plus où je faisais mes courses. Et tu vas à la caisse. Et juste avant que tu payes.
1 € pour Pécresse.
Ouais, c'est ça, 1 € pour Pécresse. Arrondissez 1 € pour Pécresse. Et maintenant, là, il y avait rouge, enfin, oui ou non. Mais le non, ils te l'ont mis en vert. Le oui, ils te l'ont mis en vert. Alors que le non, ils te l'ont mis en rouge. Et par réflexe, tu vas cliquer sur le rouge et pas sur là où il y a le mot.
Donc, c'était l'inverse. Tu veux dire le oui était en rouge?
Le oui était en rouge, oui. Non, justement, non. Tu ne veux pas payer. Donc, est-ce que vous voulez payer? Moi, je veux dire non, d'accord? Parce que je ne veux pas payer pour Pécresse, d'accord? Donc, je veux dire non. Mais le non, ils l'ont mis en
vert.
En rouge. Parce que c'est le... Oui, mais...
Bah non. En général, on clique le rouge, c'est on veut pas. Donc on logiquement.
Le principe, putain, je suis fatigué. Genre,
voilà. C'est non, non, non en vert et oui en rouge.
Voilà, imagine.
Et intellectuellement, on a envie d'appuyer sur le vert parce que le vert c'est bon, on passe.
Voilà, c'est ça. Bon, je suis sûr que vous avez compris le truc. Surtout.
Il y a quelqu'un qui a un Doliprane pour Daniel.
Ma tête est là hier, je comprends pas.
Un j'arrive café.
À travailler mes ménages.
Un petit café.
Ouais, je vais faire ça juste dans quelques minutes. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'ils t'arnaquent. Mais après, ils vont te dire, ouais, mais j'avais marqué non. Ouais, non, vous avez marqué.
Oui, il a une idée.
Ouais.
Des vitamines.
Ça, c'est de l'arnaque, ça.
Non, non. Et puis en plus, comme certainement pour toi, c'est que tu peux annuler. Donc, comme on t'autorise à annuler et ne rien payer, mais sur la masse, ils se disent, il y a peut-être 1000 crétins qui vont mettre oui et qui ne penseront pas à annuler. Et on se prendra au moins un mois.
C'est comme les arnaques du Congo, là, où tu dis, bonjour, chère madame, j'ai reçu une très, très grosse... Je suis désolé de vous déranger, j'espère que je ne vous dérange pas, et avec des mots savants. Et j'ai reçu un héritage de 150 milliards d'euros et j'ai
ouais, pas... C'est ça, ouais.
Sauf qu'il y a une faute d'orthographe, tous les deux mots.
Et j'ai besoin d'un RIB pour pouvoir encaisser mon héritage. Est-ce que vous pouvez me donner votre RIB? Et je vous assure, après, vous me remboursez l'argent. J'envoie les 150 milliards et après, vous me les rendez. Et si vous voulez, vous gardez 100 euros.
Ouais. Ah non, non, tu rigoles. On peut garder plus que ça. On peut garder plus que ça.
J'ai juste besoin d'un RIB. Moi, si tu me donnes ton RIB maintenant et je suis malveillant, je te prélève autant d'argent que je veux.
Si c'est clair.
Eux, ils en ont rien à foutre. Tu vois, ils te cochent des cases, ils vont te prélever 10 euros pendant 153 ans, tu ne t'en rendras jamais compte. Et c'est ça qu'ils vont faire. Ils ne vont pas te prélever 10 000 balles. Je me rappelle quand j'étais jeune, et ça, c'est une vraie histoire, je me suis vraiment fait avoir. Il y avait, à l'époque, il n'y avait pas Internet, bien sûr, c'était il y a longtemps, 1993-96. Je me balade, je suis dans une station de bus, de train, je ne me rappelle plus, et il y a un gars qui vient vers moi. Et à l'époque, on écoutait les cassettes audio, là, ou les CD-ROM. Et donc, c'était l'époque des CD-ROM ou des disques, tu vois, tu achetais des disques en CD. Il y a un mec comme ça, il vient dans la rue, il vient me voir, il fait salut. Alors il vient avec un petit t-shirt, avec un logo, une connerie. Il dit tiens, tu voudrais bien avoir tous ces disques-là. Il me montre une pile de 10 disques comme ça, avec des choses que j'adore, les bons titres, les bons trucs, les bons remix, etc. Je dis putain, c'est génial. Et combien ça coûte? Rien. Gratuit, prends, je te donne. Je te fous de ma gueule. Qu'est-ce que tu veux dire? Je prends, je donne. Je peux pas prendre des disques. Il dit si, tu prends. Alors il me les donne dans la main, les 10 disques. Je peux partir? Pas. T'as un pote, tu veux qu'on la ramène? J'ai encore 10 disques. Elle dit, d'accord, mais alors qu'est-ce que je fais en échange? Ben juste, tu dis, tu signes ici, tu coches la case ici, comme quoi tu as reçu les 10 de ma part. Je signe comme un bouffon. Je crois que j'ai mis 10 ans avant d'arrêter le prélèvement. Pendant 10 ans, il me prélevait 3 euros, quelque chose, ou 2 euros, on ne s'en rendait pas compte. À un moment donné, je regarde et je vois 3 euros, 5 euros tous les mois, ou toutes les semaines, tout comme ça, il me prenait. Tu ne te rends pas compte dans ton RIB, tu vois, dans ton relevé bancaire, tu ne te rends pas compte de ces petites sommes-là. Mais ça a duré pendant des années. Je crois que j'ai mis 10 ans avant de m'en rendre compte. Mais juste pour une case à cocher, parce qu'il m'a subjugué avec les disques à la con gratuits. Mais c'est des vrais arnaques, tout ça. Bon, allez, question de dernière minute, les amis. Il est 9h32. Moi, ouais, je me suis transformé en horloge parlante depuis que je suis le B-Morning. 9h32.
9h32. Je voudrais rien dire, mais tu ne dis pas les secondes. Hein. Donc, c'est pas...
Il est 9h32.
Juste une petite question.
Oui, Anna.
Vite fait, c'est pour le formulaire, tu sais, pour l'étude de marché. Que
je l'ai hier, tu l'as reçu.
Oui, mais je l'avais déjà, en fait, dans le e-learning. Mais ce que je ne comprends pas,
non, tu ne l'avais pas. Là, ce que je t'ai donné, il y a marqué étude de marché, Anne. Donc, c'est le tien. Ce que tu vois dans la formation, c'est celui que je montre à tout le monde pour l'exemple. Mais après, je te fais une copie du même truc et tu as le tien. C'est celui que je t'ai donné que tu utilises, d'accord?
Par contre, c'est le fichier Excel, il est où en fait? Faut d'abord
Il est dans le même endroit, c'est-à-dire que tu dois te connecter avec ton... Il faut que tu me donnes une adresse Gmail. Tu l'as?
Mon adresse?
Oui. Gmail. Tu as une adresse Google? Tu travailles chez Quest, non?
Oui.
Ok, bah, c'est bon. J'ai ton mail, je vais te le rajouter là-bas. Et tu vas être en tant que propriétaire du document. Et donc, à partir de ce moment-là, tu auras un bouton supplémentaire qui va s'afficher où il y aura marqué « Réponse ».
Oui. Non. Parce que là, voilà, je ne comprenais pas le...
Tu vas l'avoir, mais je te le fais tout de suite d'ailleurs. Dès qu'on coupe, je te le fais. Et donc, tu vas avoir un bouton supplémentaire marqué réponse. Juste en... Je vais te le montrer comme ça, en raccourci de plan. Parce que... Je suis fatigué, je suis désolé les amis, j'ai pas...
Non, t'envoies mon mail par...
Non, je vais te montrer à quoi ça ressemble, que tu comprennes tout de suite. Formulaire, formulaire. Regarde, je te montre ça tout de suite. Comme ça, tout le monde comprend comment ça fonctionne. Un document formulaire Google. Et comme ça, on met à la...
C'est vrai qu'au début, ce n'est pas évident.
Pas évident. Donc,
parce qu'on modifie les questions. Moi, j'avais modifié les questions.
Ouais. Alors, l'idée, c'est de ne pas modifier ces trucs-là, d'accord? De ne pas changer. Anne, c'est quoi ton adresse, Anne Laboureur?
Anne-Claire.
Ah, là.
Ouais,
c'est bon.
Ouais.
Non, non. Non. Je me trompe. Ça va, m'en veux pas.
Non.
Voilà. Je suis juste fatigué ce matin.
Voilà, c'est celle-là.
Donc là, je vais te rajouter en tant que collaborateur ici. Donc ça, c'est ton document à toi. Hein. Personne n'a accès à part toi. Okay, voilà, hop. Donc, une fois que tu as ça, donc, quand tu veux utiliser le formulaire, tu cliques ici sur le petit œil, tu vois, quand tu veux l'utiliser. D'accord? Tu cliques sur le petit œil et tu vas voir ça. Donc, c'est comme ça que tu remplis. D'accord? Tu remplis ici. D'accord? Non, une fois que tu as rempli les informations se retrouvent là, dans l'onglet réponse. Question, réponse et paramètres. D'accord? Donc, tu n'as vraiment rien à toucher ici. La seule chose que tu as à faire, c'est donc, si tu remplis le formulaire, remplis par exemple, maintenant tu vas voir, tu vas remplir par toi-même. Et ici, il y aura les réponses. Et ici, dans cette page, là où il y a marqué réponses, tu auras des statistiques qui vont se faire. Tu auras des petits camemberts, des petits cadrés, des graphes, etc. Mais les réponses, tu vas les avoir en tant que page. Nous, on les veut dans un fichier Excel. Donc, tu vas cliquer ici.
Oui.
Je veux pas le faire moi, tu vas le faire toi. Donc, quand tu crées ici, il va te dire, est-ce que tu vois, il y a marqué créer une feuille de calcul. Il va te créer tout simplement un fichier Excel qui sera lié au formulaire. D'accord. Et donc, chaque fois que tu remplis une information, automatiquement, elle arrive sur le formulaire. Okay, voilà. C'est à toi de faire l'action. D'accord. C'est à toi de faire l'action, comme ça, tu l'as dans ton drive. Et tu n'es même pas obligé de le faire tout de suite. Pour l'instant, remplis. Une fois que les informations, tu as envie de les utiliser, donc le fichier Excel, tu fais. Donc, une fois que tu as saisi tout ce qu'il faut saisir, d'accord, tu me prends rendez-vous avec moi et on étudie ensemble ton étude de marché. D'accord. Il ne faut pas passer plus que 2 jours là-dessus. OK. Pas plus. D'accord. Tu as une journée entière, tu vas faire sur Internet. Le lendemain, tu fais du terrain et c'est fini, c'est complété. Mais tu dois avoir minimum 100 de lignes, minimum. Et donc, tu vas choisir un type de bien et une centaine de lignes par ce type de bien. Là, les 2 premiers jours, ce que je veux que tu te concentres, c'est sur le type de bien que tu as envie de vendre, d'accord, ou tu as envie de démarcher. Donc, ce que je te conseille, c'est où tu parles avec moi, où tu parles à Sébastien et tu regardes dans ton secteur quel est le meilleur truc. Mais moi, je te conseille, viens rendez-vous avec moi si tu as besoin de savoir. Mais l'idée, c'est, j'habite où déjà? Tu travailles où?
Montpellier.
Pour Montpellier, les appartements. Il y a des maisons aussi, mais appartements, c'est le plus important. Tu vas chercher l'alimentaire. Donc, ce que tu dois regarder, c'est sur Internet, là, maintenant, où tu peux aller poser des questions à des agences immobilières concurrentes. D'ailleurs, ça fait partie de ton étude de marché d'aller voir les agences immobilières concurrentes. Donc, tu vas appeler une agence immobilière, en masqué, pas masqué, tu te fais passer pour Jacqueline. Et bonjour, je suis Jacqueline, nanana, je vais investir dans l'immobilier à Montpellier. Dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qui se vend le plus souvent? Qu'est-ce qui s'achète le plus souvent? À votre avis, quel budget je dois mettre? Et tu appelles 3-4 agences, ils connaissent leur secteur, eux, ils vont te dire. Ici, il y a plus d'appartements, 45 mètres carrés. Tu leur poses des questions à 3-4, tu fais une petite moyenne. Et là, tu sais qu'est-ce qui va se vendre régulièrement, qu'est-ce qui est très intéressant pour tel et tel type de personne. Et une fois que tu as ça, tu commences à faire ton étude de marché pour un type de bien, pas 25 types de biens. Parce que chaque type de bien, tu dois avoir 100 de lignes. Donc, focalise-toi sur les choses que tu comptes démarcher demain et tu commences à faire l'étude. Ce même travail que tu vas faire pour un type de bien, par exemple, appartement 45 à 60 mètres carrés, demain, tu vas faire ça sur les maisons, tu fais la même chose sur les maisons. Donc, chaque fois que tu vas remplir ce formulaire, il y a un fichier Excel qui va s'alimenter. Et quand, une fois que tu as fait ta 100 de lignes, que ce soit les annonces sur Le Bon Coin, les annonces sur Se Loger en tant que particulier, enfin, les annonces sur Le Bon Coin, Vivastri, PAP en tant que particulier, les annonces sur Se Loger, Le Bon Coin professionnel, et après, le terrain, les vitrines des agences. C'est ça ton étude de marché, d'accord? Tu dois regarder tout ça. Et une fois que tu as fait ton truc, à la fin, il y a un tableau de stats qui va se faire dans le fichier Excel, d'accord? Un tableau de stats. Et ces stats-là, elles sont très importantes pour toi. Donc, tu vas savoir, par exemple, grosso modo, l'information à quel prix les produits se vendent, à quel prix les produits se recherchent aujourd'hui. Tu vas avoir des informations selon le secteur et tu vas voir que le prix au mètre carré, ce n'est pas plus que 2 653 € chez toi parce que tu auras fait une moyenne sur 100 de biens. Et si tu vois que dans ton Excel, la moyenne, c'est 2 863 € le mètre carré et que quelqu'un te vend un truc à 3 500 balles, tu sais que tu es déjà au-dessus. Donc, ça te donne une information, mais une information du réel sur le terrain immédiatement. Cette information que tu as aujourd'hui, elles vont changer dans 3 mois. Mais au moins, tu auras en marchant, en regardant, en saisissant, les informations vont être collectées dans ta tête et tu auras déjà un aperçu du marché dans lequel tu vis.
Oui, oui, au mètre carré, oui.
Mais tu es obligé de faire ça parce que tu ne peux pas dire entre un bien à 200 000, 300 000, c'est lequel le plus cher. Donc, il faut tout réduire au mètre carré pour vérifier vraiment le prix du marché. Donc, tu dois tout réduire au mètre carré. Qu'est-ce que vous voulez dire, Joe ?
Le formulaire, il faut le remplir pour chaque bien.
Tu as 100 lignes à faire, tu remplis 100 lignes et tu remplis 100 fois. 100 fois. Mais je te dis 100 fois, mais remplis 500 fois. Fais autant que tu peux parce que plus tu as des informations, plus ça va t'aider à avoir un bon aperçu. Mais l'idée, c'est que je veux que tu regardes le marché des particuliers, je veux que tu regardes le marché des professionnels et que tu puisses faire la différence. Par exemple, si je te pose une question maintenant tout de suite, d'accord ? À ton avis, les biens, ils sont plus chers chez le particulier ou chez les agences immobilières ? Donne-moi la réponse là tout de suite.
Là, je ne pourrais pas dire. Hein, parce
ok,
que...
moi, je peux te dire.
Y aller, ouais.
Moi, je peux te dire. Je ne vais pas te la dire. Je veux que tu t'en rendes compte.
Mmh.
Je veux que tu t'en rendes compte. Et je veux que tu puisses dire comme argument à un particulier vendeur, monsieur, les acheteurs, ils ne viennent pas dans les... chez le particulier parce que chez Sologer, elles sont moins chères. Par exemple, tu as un acheteur qui t'appelle, je dis, pourquoi j'achèterais ce bien chez vous alors qu'il est sûrement sur le bon coin ? Ben, parce que nous, on est moins chers.
Mmh.
Et pourquoi vous êtes moins chers ? Parce qu'on sait négocier. Et on a déjà négocié pour vous. Là, c'est des arguments importants. Et tu vas voir que c'est en faisant que tu vas comprendre tout ce que je suis en train de te dire. C'est en faisant, en regardant, en saisissant les informations que les prix au mètre carré vont s'ancrer dans ton cerveau. C'est en marchant dans les vitrines des agences que tu vas te rendre compte combien tu as de concurrents qui existent. Tu vois, t'es obligé de voir par tes yeux. Tu es obligé de marcher. Donc, n'importe quel entrepreneur qui lance une entreprise, n'importe quel endroit sur la planète, fait une étude de marché, n'importe qui. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est de connaître la concurrence, de connaître les produits qui existent, de voir comment les gens bossent d'une manière générale. Toi, tu veux savoir comment tes concurrents fonctionnent. Par exemple, si tu appelles aujourd'hui un particulier, l'autre, il te dit, je travaille déjà avec Century 21, avec ERA aussi, avec Orpi. Ok, super. Est-ce que tu sais comment ERA, Orpi et Century 21 fonctionnent ? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils proposent ? Est-ce que tu as une idée de ce que les gens leur disent au téléphone, leurs pieds et les Century 21, t'en as aucune idée. Et donc, comme tu ne sais pas ce qu'il leur dit, alors l'autre, il te dit, j'ai déjà signé avec Century 21, tu dis, ah bon, avec Century 21, alors dommage, alors. Mais tu ne sais pas ce qu'ils proposent. Ça se trouve, ils sont mauvais. Alors, ce n'est pas Century 21 qui serait mauvais. Peut-être eux, cette agence, elle est mauvaise. Et tu sais qu'ils racontent des salades. Ou si jamais tu savais que quelqu'un, un négociateur, offre des iPads en partie de mandat exclusif, à toi de décider si tu as envie d'offrir des iPads ou des téléviseurs. Tu as besoin de savoir ce qui se passe sur le marché. Ou peut-être tu veux dire, c'est bon, moi, je n'offre pas des iPads et je vous explique pourquoi. Et si vous offrez un iPad, c'est à cause de ci, à cause de ça. Donc, tu dois avoir des arguments, tu vois, pour contrer toutes les méthodes marketing que les autres. Mais tu ne peux pas les connaître, ces méthodes marketing, si tu n'as pas fait ton étude de marché.
Ouais, non, mais il faut téléphoner aux agences, comme ça, on voit aussi.
Il faut téléphoner, il faut aller les visiter. Dans ce que je vous ai expliqué dans l'étude de marché, tu dois être capable, par exemple, pendant les premiers jours de ta vie dans l'immobilier, quand personne ne te connaît, tu rentres dans plusieurs agences immobilières, tu te fais passer pour un acheteur. Tu rentres dans d'autres agences immobilières, tu te fais passer pour un vendeur. Et tu regardes comment ils te traitent.
Voilà.
Parce que toi, demain, tu auras un acheteur qui va t'appeler et te dire « Ouais, mais j'ai déjà eu un contact avec un truc. » Ok, mais moi, je les connais, eux. Je vous explique comment ils travaillent. Moi, je dis vraiment, moi, je travaille. Et tu vas pouvoir mettre en avant des arguments sans avoir besoin de les casser, eux. Tu vas mettre des arguments qui sont positifs pour toi, mais qui n'ont pas eu chez les autres. Mais parce que tu sais ce que les autres font. Donc, tu pourras dire, moi, je fais ça et ça. Tu pourras mettre en avant un truc que les autres ne mettent pas en avant. Donc, l'idée, c'est de connaître ta concurrence. L'idée aussi, c'est de connaître le PAP, le bon coin, regarder comment le site fonctionne, faire des recherches, arriver à être un peu, avoir plus de dextérité sur les logiciels, regarder, chercher, analyser. Tu vas apprendre sur une seule étude de marché de 2 jours, tu vas apprendre énormément de choses. Énormément de choses. Alors, pas plus que 2 jours, hein, parce que c'est quelque chose qui est important, mais tu as besoin de ces 2 jours-là, tu dois bosser. Pour moi, tous les trucs que tu fais au départ, ils sont importants pour le restant de ta vie, le restant de ta carrière. C'est maintenant que tu apprends ces choses-là. Si jamais tu ne le fais pas maintenant, l'étude de marché, quand tu auras trop de rendez-vous de pige, trop de rendez-vous avec des vendeurs, trop d'acheteurs qui t'appellent, tu ne pourras jamais prendre le temps pour faire ça. Mm-hmm. Et pourtant, c'est la chose la plus importante qui existe. Mm-hmm. C'est bon ?
Okay.
Donc, tu voulais me dire quoi, Joe ? Je t'écoute.
Oui, cette feuille d'étude de marché, on peut l'avoir ?
Ah oui, je la donne tout de suite, pas de problème.
Ah ouais, ce serait bien ça.
Je te donne tout de suite. Donne-moi ton adresse mail. Écris-la, s'il te plaît, Joe, sur le chat.
Merde, comment je fais là-dessus ?
Ah, tu écris sur le chat.
Bah, tu fais J. Charlois Immobilier, si tu vas l'avoir.
Vas-y, écris-le. Je crois que je travaille pour toi. Bon, vas-y.
Allez. Vas-y. Attends, putain, faut que tu aies une minute.
Pardon. Écris. Tu vois, ça, c'est une erreur que vous faites très souvent quand vous avez des prospects, acquéreurs ou vendeurs au téléphone et que vous devez récupérer leurs coordonnées. Alors, vous leur dites très souvent. Vous pouvez, s'il vous plaît, m'envoyer vos coordonnées par SMS. Et donc, on leur demande de bosser. J'ai vu aussi, Franck. et on leur demande de travailler pour nous. Envoyez-moi, s'il vous plaît, vos coordonnées par SMS. Alors que ce n'est pas ça. C'est, tu dis, bon, quelles sont vos coordonnées? Allez, Joe, envoie-moi ça. Bon, écoutez, les amis, on voit que vous êtes en train de me donner tous vos adresses mail. Donc, OK, c'est cool. Je vais à l'autre copie. Allez, donne-moi ton adresse, Joe. Ils m'ont tous donné leur adresse, sauf toi.
Mais je suis vieux, moi.
Tu n'as pas suivi, là. Pourquoi les adresses?
Non, toi, tu n'es pas arrivé encore parce que tu n'es pas arrivé à la formation.
Pour le formulaire.
Tu es de marché, donc.
Alors, si... Tu l'as, c'est bon.
Franck, c'est une adresse Gmail, ça?
Ou tu mets l'adresse Gmail?
Oui, obligatoirement.
Alors, bouge pas.
Je ne bouge pas.
À 11h, il y a bien...
Ouais, live, les amis, à 11h sur la communication. OK. Tous les...
À tout à l'heure.
Bah, OK, je t'ai fait ça, Franck, mais donne-moi ton Franck sur toi.
À plus tard.
Ça, c'est l'adresse Google App.
Google App, OK. Et tu la rediriges vers l'autre?
Non. C'est la principale.
Bon, et
c'est tout arrive sur franck.turpin@projetia.org et Google App.
D'accord, OK.
Alors, bon, tu l'as, moi, c'est bon.
Moi, c'est bon, je t'ai donné. Franck, je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé.
Merci, Daniel.
Ouais, mon ami, il n'y a pas de problème.
J'ai
donné ça à tout le monde. Vous avez tous les documents. Qui c'est qui m'a demandé encore? Qui c'est qui m'a demandé? C'était qui? Puis resto. Ah, c'est Sandrine. OK. OK, les amis.
Passez bien tous une bonne journée.
C'est une très bonne journée, les amis.
Par contre, Daniel, tu fais un live à 11h, c'est ça?
À 11h, c'est sujet communication. Donc, toutes les questions sur la communication, live. Enfin, non, c'est webinaire. Tu as le lien, non?
Non.
Et je te mets ça dans le groupe Telegram, il est déjà là-bas. Je te mets ça tout de suite.
C'est gentil, merci bien. Amis, bonne journée à tous. Merci.